mais, ou 100 000 fois, ou moins, peu importe.
Je sais même pas
mais c'est proportionnel. Mais ce qui est important, c'est la forme de la courbe. C'est ça qui compte.
Oui.
C'est montrer qu'il y a un infléchissement.
Bon, moi, c'est pas. C'est une question que je me pose. Je me demande si le contenu d'information de ce truc-là n'est pas quasiment nul. Je veux dire qu'on pourrait faire sur d'autres bases et d'autres applications plus ou moins différentes. Il y a une courbe avec des chiffres complètement différents.
Oui, mais
ça n'a pas plus de valeur les uns que les
autres. Il faut bien un socle de départ, c'est ça en fait.
Ben oui, mais le problème c'est ça, c'est que le socle de départ, alors, je doute de sa validité.
Et oui, alors est-ce qu'il faut refaire un nouveau socle et à partir de quoi et quand?
Attendez, on mélange deux problématiques.
C'est plus critique ou interrogatif que ça. Je me demande, dans tout raisonnement économique, est-ce que le socle est un bout? Est-ce qu'on est capable de définir un socle?
Non, nous sommes d'accord, hein, Renat, nous sommes d'accord. Ça, c'est la mesure de l'économie capitaliste. L'économie capitaliste mesure sa croissance ou sa décroissance avec le PIB. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées.
Alors, si on changeait un certain nombre de règles dans le système économique, on aura des chiffres complètement différents.
Tout à fait d'accord. Bon, mais c'est le fait de montrer cette courbe.
Ça me semble arbitraire.
C'est arbitraire.
Ah, je pense pas.
C'est arbitraire ou c'est même plus qu'arbitraire, c'est contestable en tant que bonne santé de l'économie. Si tu lis le livret de l'INSEE qui s'intitule Qu'est-ce que le PIB ? Eh bien, dans ce livret de l'INSEE, on nous dit en intro que le PIB, alors on explique comment il est calculé, hein, il y a les trois façons de calculer le PIB, le PIB par les ressources, enfin par les salaires, le PIB par la valeur ajoutée et le PIB par la consommation, qui doit, en principe, ces trois calculs donner le même chiffre. Donc, après nous avoir expliqué comment on calcule le PIB est généralement comptabilisé par l'INSEE selon la méthode de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la différence entre le prix du produit moins les consommations intermédiaires. Ce que toute entreprise est tenue de fournir dans sa liasse fiscale afin justement que l'INSEE puisse calculer le PIB. Ce que je veux dire, c'est que, là où je veux en arriver, c'est que l'INSEE nous dit, bon, maintenant qu'on vous a expliqué, vous les citoyens ordinaires, ce que c'est que le PIB, on va vous dire à quoi ça sert. Bien, ça sert à mesurer la bonne santé de l'économie. Si j'ai un PIB qui est haut et si j'ai un PIB qui monte, ça veut dire que l'économie est en bonne santé. Si j'ai un PIB qui est bas et si j'ai un PIB qui descend, ça veut dire que l'économie est en mauvaise santé. Donc, alors là, ça, c'est contestable. C'est contestable et bon, c'est contesté. J'ai beaucoup écrit là-dessus, notamment dans ma conférence de la faillite annoncée de la société industrielle. Bon, je montre que le PIB est un indice qui ne reflète pas la bonne santé de l'économie. Que si on veut vraiment voir si l'économie est en bonne santé, il faut prendre d'autres indices. Mais c'est pas l'objet. Là, l'objet, de toute façon, le PIB, il mesure quelque chose. Il mesure. Alors, si on prend le PIB par la valeur ajoutée, il mesure les prix. Tous les prix des produits, c'est...
Mais le prix, c'est pas une valeur physique qui est définie ça.
Lorsque tu as une entreprise, tu es chef d'entreprise.
C'est ça que moi,
non, non, mais, moi, non, mais on va, c'est bien qu'on s'arrête là-dessus.
On peut définir ce que c'est que le mètre, on peut définir ce que c'est que le seconde, mais définir c'est un euro, c'est... Non. Il n'y a pas de définition matérialiste.
Non, mais nous sommes d'accord. Ça mesure quelque chose.
Tout ça construit sur du ça. Il n'y a pas d'axiomatique comme en mathématiques. Un des grands problèmes de la mathématique, c'est de définir une axiomatique pour voir la logique de tout ça. Il n'y a rien.
Ben, la logique, elle est capitaliste.
Non, mais attends, je crois qu'on se trompe de débat. Attendez.
Ouais, c'est pas le sujet.
Non, c'est le sujet. Mais on se trompe de débat. On n'est pas en train de dire le PIB, c'est une bonne ou une mauvaise mesure. Le PIB, c'est une mesure. Bon, ça mesure, lorsque tu as une entreprise, c'est ton chiffre d'affaires moins, c'est-à-dire la somme de la vente de tes produits, moins les consommations intermédiaires. Bon, c'est la valeur ajoutée. Bon, alors, ça mesure avec les éléments tarifaires qui sont en cours. Voilà. Bon. Là où on est d'accord, c'est que le PIB n'est pas un indice de mesure de la bonne santé de l'économie, de même que, comparativement à un thermomètre qui mesure la température, s'il fait 18 degrés, bon, il fait plus chaud que s'il fait 15 degrés. Non. Eh bien là, si on a un PIB de 2200 milliards comme en France, et que l'année d'après on a un PIB de 2400 milliards, ça ne veut pas dire que la France va mieux de 200 milliards. Voilà, on est d'accord. Bon.
La problématique que je pose, c'est pas ça, c'est plus en amont. Ah bon. C'est que la température, on peut définir ce que c'est que la Kelvin, précisément. Jamais on peut définir ce que c'est qu'un franc ou un euro ou une bordure.
Le marché.
Donc ça repose sur
une convention. Le prix d'un produit, c'est une convention. C'est-à-dire que.
Est-ce qu'on change les conventions?
Oui, non mais d'accord. Donc, d'accord.
Non mais là,
alors, revenons à nos moutons.
Moi, je reviens, il y a un prix Nobel d'économie, c'est une escroquerie, le prix Nobel d'économie.
Oui, alors.
Il n'a rien à voir avec Nobel, et il n'a rien à voir avec le comité.
Le prix Nobel de littérature aussi, il y a des prix Nobel, c'est décliné.
C'est subjectif aussi, bon. Le prix Nobel de littérature.
Cette courbe qui pointe, qui mesure, en fait, l'augmentation de la richesse produite, fabriquée par la société industrielle, avec son unité de mesure qu'elle-même a décidée. Nous sommes d'accord. Bon. Elle est homothétique, quasiment à l'évolution de la population, puisque en moins de 10 000 ans, on avait 5 millions, hein, on estime qu'il y a 5 millions d'habitants sur la planète.
Là, l'unité, tu ne peux pas la contester.
En l'an 1,
qu'on se trompe.
En l'an 1, on a.
Je veux dire, c'est que je veux en parler.
Bon, en l'an 1, on a 250 millions. En 1850, on a 1 milliard. En 1930, on a 2 milliards.
Le PIB.
En 1960, 3 milliards.
Ce n'est pas le PIB dont tu parles, c'est le nombre d'habitants.
Le nombre d'habitants. Voilà. Donc, la population, elle passe de 5 millions. À 6 milliards avec le même cadrage de courbe.
Ça ressemble, c'est la même courbe.
Voilà, c'est la même courbe. Bon.
Attends,
et
quelle courbe?
C'est la courbe de l'évolution de la population. Voilà.
Eh ben, elle ressemble à celle-là.
Voilà. Et troisième courbe.
Ça ne veut rien dire. C'est pour pas ces deux courbes se ressemblent qu'elles sont liées.
Non. Alors, attends, pour l'instant, on dit qu'elles se ressemblent. Pour l'instant, on dit que
ça ressemble, mais ça ne veut rien.
Alors, on y vient. Alors, il y a troisième courbe, c'est la consommation de ressources naturelles finies, c'est-à-dire le nombre de tonnes que l'homme prélève de l'écorce terrestre. Alors, en 10 000 ans, on a zéro, CRF, c'est consommation de ressources naturelles finies. Hein ? En l'an 1, on a 0,01 milliard de tonnes. En 1900, on a 8 milliards. 1932, 12 milliards tonnes
de produits consommés.
De produits, de tonnes de matière.
Matière.
Ressources naturelles fines. Tout.
On mélange le silex.
Voilà, on mélange tout.
L'uranium et le.
On mélange tout. Ça s'appelle.
C'est ce qu'on prélève sur Terre.
Ça s'appelle. Les Américains appellent ça DMC, Domestic Material Consumption. C'est calculé en tonnes. C'est un calcul. Bon. Ça donne la quantité. Ça donne la quantité.
Non, c'est des masses. Dans tous les cas, voilà. C'est des masses. C'est pas les masses de même chose, mais c'est des masses.
Voilà. C'est en tonnes.
Je peux ajouter.
Alors, c'est pas à quoi ça sert.
Ça sert
à la démonstration.
Alors, ça sert à dire que sur la même période, si on prend la totalité de la richesse produite exprimée en euros constants, si on prend la totalité de la population, comment ?
L'euro est 10 000.
Oui, ben c'est égal à zéro. Si on prend la totalité de la population en nombre d'individus, et si on prend la totalité de la consommation
en masse
de ressources naturelles finies en masse, on a exactement le même genre de courbe. Donc, on a une concomitance de la variation de la population avec la variation de la production de richesse exprimée dans l'unité monétaire du moment et une concomitance entre la courbe de la consommation des ressources naturelles finies. Alors, les deux courbes qui sont les plus souvent rapprochées, c'est celle du PIB et celle de la consommation des ressources naturelles finies. On a la courbe démographique, elle est accessoire parce qu'en démographie, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Enfin, bon, les trois marchent en même temps. Et c'est ce qu'on appelle la corrélation entre le PIB et la consommation de ressources naturelles finies. C'est quelque chose qui n'est.
Qui est, variable corrélée. C'est pas dire qu'il y a un lien de causalité entre.
Alors.
C'est bien comme c'est même une des erreurs souvent faites par les journalistes.
Oui.
On leur voit une corrélation et puis eux ils croient qu'il y a une causalité.
Bon.
Ça n'a rien à voir. Hein.
Alors là,
on peut corréler deux variables qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre avec un seul corrélation énorme et il n'y a aucune causalité.
Alors. Exemple.
Par exemple, il y a quelques temps, il y a une étude statistique qui a été faite sur la consommation de moutarde dans l'état du Maine des États-Unis et le taux de divorce. Il y a une corrélation de 97%. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas de causalité.
Bon, attendez.
Il y a un état comme ça.
Ah ouais, ouais.
Revenons à nos moutons.
Non, mais c'est intéressant, toi, moi, j'ai...
Alors, là, on a. DFC, Domestic Internal Consumption, et là on a le PIB. Hein? D'accord. Alors ici effectivement on a des euros en euros ou des dollars, et puis ici des tonnes, hein? Et puis là on a 1900, et ici on a 2000. Bon. Bref, ce qui compte, c'est pas les chiffres, c'est le principe. Alors, toi, tu nous dis, c'est pas une preuve qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire que c'est pas une preuve que... Laisse-moi finir ma phrase. Et ensuite, tu prends ta phrase. Bon. Il y a une augmentation de prélèvement des ressources naturelles finies, et il y a une augmentation du PIB. Ça, c'est constaté. Est-ce que c'est une preuve que.
Il y a cause.
Quand. Voilà, a priori, effectivement. Là, attends, mais laissez-moi finir de m'exprimer. Chacun pourra s'exprimer à son tour. La tentation, effectivement, est grande de dire. Plus je prélève de ressources naturelles, plus je produis de richesses. Le nombre de richesses étant multiplié par un certain coefficient de dollars ou d'euros, et si je prélève moins de ressources naturelles, je vais faire moins de prix. La tentation est grande de dire ça, d'autant plus que on constate bien que le processus économique, c'est un input de ressources naturelles et un output de produits manufacturés. Bon. Alors, maintenant, c'est pas effectivement une loi mathématique hein, comme le carré d'hypoténuse. Hein, et donc, on ne peut pas être sûr
que, là, la
que c'est vrai. Mais il faudrait que, par exemple, tu nous dises pourquoi c'est faux, ça. Pourquoi la corrélation n'existe pas.
On ne dit pas. La corrélation, la constate.
Oui.
La corrélation, ce n'est pas la causalité.
Deux
variables doivent être corrélées sans qu'il y ait lien de causalité.
D'accord. Alors, dans ce cas-là, il y a une causalité ou pas?
Mais il faut faire une étude statistique pour ça.
Non, c'est
pas sur une courbe.
Non, mais
on ne peut pas le voir sur la courbe.
Non, alors,
c'est des méthodes statistiques. Ça s'appelle les méthodes, par exemple, en pharmacie, les méthodes de test en double.
Bon, donc ta conclusion, c'est quoi par rapport à ces
méthodes? Mais on ne peut pas dire.
On ne peut pas dire conclusion, donc on en parle.
Non, c'est pas parce qu'on compte. Quand on constate une corrélation, on ne peut pas tirer de conclusion de causalité sur une analyse mathématique des données. C'est tout. C'est vrai que je suis connu, mais apparemment, c'est pas. C'est
du mal. Alors, qu'est-ce que tu en dis?
Il y a un truc rigolo qu'on peut. C'est 14, 98% des gens, je ne sais pas, meurent dans leur lit. Donc pour diminuer la mortalité, il faut interdire les lits.
Qu'est-ce que tu tires de cette conclusion-là? Est-ce que tu tires une conclusion de, on ne peut rien tirer.
Il interdit. Une corrélation, ne pas rien tirer sans analyse mathématique des données. La causalité, pour voir un lien de causalité, il y a des méthodes mathématiques pour ça, et ce n'est pas en gardant de cours pour faire.
Donc on ne peut pas, d'après toi.
Mais c'est pas d'après moi.
Non, mais. C'est d'après toi.
Non.
Puisque nous, on n'est pas d'accord. Donc c'est d'après toi.
Non, mais attends, il a peut-être des arguments.
La différence entre causalité et corrélation, vous ne l'avez pas intégrée, c'est pas la peine d'aller plus loin, je pourrais être méchant, mais. Alors, on peut dire au pif comme ça, ça paraît comme ça, effectivement, j'ai l'impression, mais rationnellement, c'est pas vrai.
D'accord.
Rationnellement, pour prouver une causalité, il faut utiliser une méthode statistique sur les données pour voir si il y a une causalité ou non.
C'est quelle causalité il y a entre l'un et l'autre? Oui, non, mais.
Quand tu donnes une courbe comme ça, tu peux te dire qu'il y a un coefficient de corrélation qui doit être très fort, entre 98 et 99%, on ne sait rien. Mais la coefficient de corrélation, ce n'est pas une causalité.
Oui.
Non, c'est un élément de contestation intéressant.
Je vous parle pas spécialement de ce qu'on discute aujourd'hui.
Essayons d'être constructifs. Bon, si c'est un élément de contestation, ça doit déboucher sur quelque chose. Ça débouche sur quoi?
Ça débouche sur le fait de dire qu'il y a une causalité, c'est faux. Alors peut-être qu'il y en a une, mais on n'en sait rien.
Oui, non, mais on ne peut pas passer son temps à dire « je ne sais rien, autant rester couché ». Bon,
si on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Mais du coup, c'est pas compliqué.
Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer une baisse de consommation des ressources et une augmentation du PIB? Si tu veux augmenter la production de richesse, il faut bien aller chercher plus de produits.
J'en sais rien. On imagine. Ce qu'il faut, c'est des données, puis vous voir les tableaux de données. Il y a des tableaux de données?
Bien sûr. On a les tableaux de consommation de ressources naturelles finies. Et puis on a les tableaux du PIB.
Donc la question qu'il a posée, je vais y avoir une réponse. Qu'est-ce qu'on constate? Je ne sais rien.
Alors, les économistes, jusqu'à présent, alors là je prends la. Je fais une analyse de ce qui se dit dans les livres d'économie, disent qu'il y a un couplage entre la consommation de ressources naturelles finies.
Qu'est-ce que c'est?
Attends. Il y a un couplage, ça veut dire que il y a une causalité, effectivement, une causalité. Il y a un couplage de la courbe qui signifie qu'il y a une causalité entre la consommation.
Ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité.
Les économistes disent, la majorité, l'idée généralement admise. C'est qu'il y a une causalité entre la consommation de ressources naturelles finies et l'augmentation du PIB.
Un lien de causalité.
Oui. Je
ne sais rien, peut-être, je ne sais rien.
Non, mais bon, voilà. Et il y a maintenant une question, c'est de savoir si on peut avoir. Parce que là, avec la DMC, on a un problème. On a un problème, c'est que les ressources naturelles finies sont en voie d'épuisement. Bien. Donc, la DMC, elle va faire. La DMC, Domestic Material Consumption, c'est 3 fois plus.
C'est la consommation des ressources.
Domestic Naturelle. Material Consumption. Voilà. Bon, elle va faire ça.
La consommation. C'est les masses consommées.
Voilà.
Oui, c'est les masses consommées de produits.
Non, parce que mesurer des masses, c'est objectif, on sait de quoi on parle.
Voilà.
Mesurer des prix, c'est du vent. Ça repose sur des conventions.
Ah, mais les prix. Bon, attends. Non, il ne faut pas chercher à contrer systématiquement par des mots, il faut essayer de voir ce qu'on veut dire. Bon, là, on a des matériaux, des ressources naturelles finies qui diminuent.
Oui, mais c'est ça.
Bon, la disponibilité diminue. Est-ce que le PIB va continuer à augmenter?
Oui, non. La signification objective de la deuxième courbe, elle me semble douteuse.
Quelle est celle?
Suivant les conventions qu'on peut donner sur ce qu'on appelle le PIB, on peut avoir cette courbe, mais si on change les conventions, on peut peut-être avoir une comme ça, ou une comme ça, ou une qui fait une
Non.
Moi, je ne pense pas.
Non, alors, bon, non. Si on change de convention, le PIB mesure. Le PIB mesure quelque chose d'extrêmement précis.
C'est ça la question.
J'ai déjà donné 3 ou 4 fois la réponse.
L'unité monétaire est
que tu contestes, mais le.
C'est pas que je conteste, il n'y a pas dans le système des unités une définition d'unité monétaire. Et on a la définition de l'ampère, du mètre, de la seconde,
mais l'unité monétaire,
ça n'existe pas.
Mais c'est une proposition. Le PIB mesure un chiffre d'affaires. Hein, pour faire simple, hein, on va oublier.
Je me pose la question sur la validité absolue de cette notion. J'ai peur qu'il n'y ait rien derrière en réalité, que ce soit complètement arbitraire. Bon, mais passons, hein, on continue.
Laisse tomber le PIB, c'est pas grave.
Non,
parce que vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord.
C'est pas une question de se mettre d'accord. Je sais pas ce que tu veux dire.
Moi, je comprends la question. Je suis un scientifique et je comprends ta question, honnêtement. Mais alors, il y a bien quand même. Il y a une corrélation facile entre le nombre d'habitants sur la planète et la consommation de produits retirés dans la Terre. Ça, on comprend que plus il y a de monde, plus il va y avoir de consommation. Ou alors, je comprends plus.
Oui, c'est ça. Mais parce qu'on suppose qu'il y a un présupposé déjà. Si on ne se connaît pas le problème, on ne peut pas dire tant qu'on n'a pas prouvé la causalité.
J'ai besoin de plus à bouffer s'il y a 2 millions de personnes que s'il y a 1 million, c'est pareil logique quoi. Donc je vais.
Ça c'est déjà explicatif. Avant d'expliquer, il faut constater ce qui existe et constater éventuellement les propriétés.
Oui, c'est pour ça, c'est ce que tu viens de dire. Ça, c'est un départ naturel.
Oui, moi ça me paraît.
Plus tu auras dans un groupe, plus tu auras de gens, plus il y aura une consommation.
Méfiez-vous, vous savez, moi je ne suis pas mathématicien non plus, mais vous verrez très facilement dans les mathématiques qu'il y a des conclusions qui sont complètement contre-intuitives.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Oui. En physique aussi d'ailleurs. Mais bon.
Bon, c'est pour ça que les économistes, il y en a des millions qui font tourner les ordinateurs, qui trouvent des résultats. Quelle est la valeur réellement de ces résultats?
Je ne sais pas.
Ça repose sur du sable.
Attends, je vais fermer.
On fait aussi dans les ordinateurs pour des prévisions astrologiques.
Bon. Si on demande.
Ça y est, puisque tu aimes bien parler anglais, il y a un discours dans ces milieux-là. Enfin, pas ces milieux-là. Garbage input.
Oui, les cochonneries.
Ouais, c'est le. La boîte noire qui est un instrument qui peut être très évolué, si on rentre de la mer, on sort de la mer.
Oui.
Je ne veux pas imposer quoi que ce soit.
C'est l'interrogation scientifique, t'as raison.
Tu poses quelle question? Tu te demandes, hein,
quelle est la validité
du PIB?
On a une unité importante qui est une unité de mesure de la valeur. D'abord, il faut définir ce que c'est que la valeur d'un produit. Parce que la masse, la température, je peux te le dire, la valeur, je ne sais pas sur quoi ça repose. Donc l'unité qui mesure ça.
Ça pourrait être la quantité d'énergie consommée.
Attendez, on s'égare. Bon. On n'est pas là pour imaginer une valeur différente de de la valeur. Mais laisse-moi parler. Mais ne laisse-moi parler. Laisse-moi finir mes phrases. Moi, je ne t'interromps pas quand tu parles. Bon, il faut pouvoir dérouler l'intégralité de sa phrase pour pouvoir communiquer, pour échanger. Bon. Le PIB, il a tous les défauts possibles, bien sûr. Il mesure la croissance façon capitaliste.
C'est clair.
Voilà. Nous, ici, on travaille sur la notion de décroissance. Donc, on travaille aussi sur la notion de croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance? La croissance, c'est le PIB. La croissance telle que on nous l'apprend, telle qu'on nous l'a dit dans les médias, telle qu'on nous la démontre dans les médias, la croissance telle que la notion qui fonde l'économie actuellement, c'est le PIB. Je ne suis pas en train de défendre le pays, c'est ça. Quand on mesure le PIB chaque année de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis, on voit à combien il est. S'il a augmenté, il y a de la croissance. S'il n'a pas augmenté, il y a de la stagnation. S'il a diminué, il y a de la décroissance. Bon, c'est une convention et justement, c'est ça qu'on étudie. Et on pose la question, nous, à la société industrielle qui consomme de la DMC, des ressources finies, on lui pose une question, on lui dit, lorsque on aura moins de d'input à mettre dans la machine à produire, quid du PIB? C'est ça qu'on pose comme question. Et eux, alors, ce couplage qui jusqu'à présent est constaté, effectivement, constaté, les cours sont symétriques, on n'a jamais eu ce type de cours, on n'a jamais eu. On n'a jamais eu ce type de cours. On a toujours mesuré le PIB de la même façon, une façon qui ne convient pas, on a toujours mesuré la DMC de la même façon, et on a toujours eu.
C'est pas que ça ne convient pas.
On a toujours eu cette. Je vais terminer, ensuite tu prendras la parole. C'est court. Bon. Et nous, on pose la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant là? Et alors, les économistes croissancistes, voire les économistes du développement durable, nous disent, eh bien, le PIB, on va réussir à continuer à faire bouger. Voilà. Voilà le problème posé. Est-ce que c'est vrai? Voilà ce qui nous occupe ici. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit ça, personne ne conteste. Et j'ai plus en tête, mais il y a un rapport de la Commission de l'énergie, de l'Assemblée nationale, etc., qui sort ce genre de cours. C'est-à-dire qu'on va continuer à pouvoir avoir un PIB avec la façon qu'on a de le mesurer, on va pouvoir avoir un PIB qui continue à monter, hein, alors qu'on aura moins de ressources naturelles. On va y arriver. Voilà. Ça, c'était par rapport aux cours qui sont jusqu'à présent corrélés avec les instruments de mesure qu'on a. Le PIB, on sait très bien comment on le calcule. La démographie, on sait très bien comment on les calcule. Et le troisième, la quantité de ressources, effectivement, il y a des kilos de fer ajoutés à des kilos de cuivre, ajoutés à des kilos de charbon, ajoutés à des kilos de pétrole, mais tout ça, ça fait des kilos. Ça veut dire que s'il y a zéro kilo, ça veut dire qu'on a tiré zéro pétrole et zéro charbon, et s'il y a des milliers de kilos, ça veut dire qu'il y a un petit peu de tout là-dedans. Bon, voilà, c'est tout, c'est une façon de le mesurer. C'est ça la question. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce que j'en pense des questions que je me pose? J'ai jamais réfléchi. Hein. Non, j'ai jamais tellement réfléchi. C'est que une des courbes, c'est donc ce qu'on appelle le PIB, j'ai peur, je sais rien, j'affirme pas. J'ai peur que ça soit quelque chose qui n'a aucune valeur intrinsèque. Je veux dire que suivant les conventions qu'on prend pour la définir, on va trouver des courbes complètement différentes. Tu as dit, ça mesure dans le système capitaliste, la production. Bon, alors, il n'y a même pas besoin d'aller il y a 10 000 ans en arrière, mais il y a même 1000 ans en arrière, le système capitaliste. Ça peut, il n'y a pas de système capitaliste il y a 2000, il y a 3000 ans, 2000 ans. Moi, la question que je me pose, c'est que si on définit quelque chose qui s'appelle le PIB, d'abord la définition, c'est défini sur une valeur monétaire. Cette valeur monétaire, elle est arbitraire. Donc on peut faire n'importe quoi. Quand on définit les poids, des masses, plutôt, des masses, les masses, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de protestation, d'erreur possible. On pourrait le faire en volume d'ailleurs, pourquoi en masse? C'est plus facile en masse, on pourrait le faire en volume. Hein? Mais en masse, bon, d'accord. La courbe en masse, elle est ce qu'elle est. La courbe monétaire, je me demande si ça n'a pas de réalité physique.
Et alors?
Et bien alors on compare, déjà en discutant je me rends compte, on compare une courbe qui est avec des unités qui sont parfaitement définies avec une autre où c'est une unité qui n'a pas de définition, donc on compare quoi?
Et alors? Vas-y, continue, et alors? Quelle est la conclusion?
Ben il n'y a pas de conclusion.
Quelle est ta conclusion?
Ben c'est tout, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec des outils pareils?
Ça, c'est les outils qu'on nous donne, c'est pas nous qui les faisons. C'est les outils qu'on nous donne. Je ne t'ai pas interrompu. Le calcul du PIB, c'est un calcul, c'est pas nous qui le faisons, c'est nos dirigeants qui le font. Quand tu as une entreprise, chaque année dans ta liasse fiscale, tu dois donner la valeur ajoutée. C'est ça que l'INSEE ajoute et c'est avec ça qu'elle fait le PIB. Bon. C'est pas nous qui le faisons. Ils le font toujours pareil depuis des années. Bon, il n'y a pas de conclusion particulière à tirer.
Mais si au cours des années passées, on avait donné des définitions, des prix différents,
oui.
La courbe n'aura rien à voir. Donc, où est l'objectivité là-dedans?
Mais on ne parle pas d'objectivité, on parle de la mesure, on parle de la croissance. La croissance, c'est le PIB, c'est synonyme.
Ah bon?
Oui. C'est ça peut-être qu'il t'a pas intégré. C'est synonyme. La croissance, c'est le PIB. Tu prends le livret de l'INSEE qui s'appelle « Qu'est-ce que le PIB ?» L'INSEE te dit « Le PIB, c'est une mesure que nous autres économistes modernes, on a posée en tant que mesure pour calculer ce qu'on appelle la croissance. » Et c'est ça qu'on nous vend. Bon, voilà, c'est tout.
L'objection que je fais, c'est que pour moi, il n'y a pas de mesure.
Non, mais...
C'est une mesure avec une unité arbitraire qui est indéfinissable, ça n'a aucune valeur.
Oui, bon. Mais nous, c'est pas à nous qu'il faut le dire, puisque nous, on est ici décroissant. Donc, de toute façon, on sait bien que c'est du bidon. Mais même avec leur mesure à eux, comprends bien l'argument. Avec leur mesure à eux, on leur dit, écoutez, bon, vous le PIB, vous le calculez comme ça, très bien. Bon, alors expliquez-nous maintenant votre PIB qui s'appelle la croissance, et que vous nous dites que votre système, le système que vous nous proposez, c'est un système de croissance qui va durer, développement durable, c'est bien ce qu'on nous vend tous les jours. Bon, ce développement durable, malgré la diminution de la DMC, il va continuer. Bon, c'est de ça qu'on parle.
Voilà. Dans la théorie, mais c'est ça, l'économie n'est pas une science expérimentale, puisqu'on ne peut pas faire des mesures et confronter une théorie à des mesures expérimentales.
Bon.
Donc, on discute de quoi?
Oui, bon, eh bien, écoute, voilà. Donc,
on ne peut pas revenir 1000 ans en arrière, changer un paramètre et voir ce qui s'est passé.
Mais c'est pas ça qu'on fait.
Ben oui, mais c'est ça. C'est ça la démarche scientifique.
Oui.
Si tu fais ça, c'est pas une démarche scientifique.
Non, on fait pas. On n'est pas des scientifiques, hein. Bon.
Si.
Non, on n'est pas des scientifiques. Le travail qu'on fait ici, c'est pas un travail scientifique. On essaye de comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Alors, on lit Roegen, on regarde le PIB, on regarde les courbes, et puis on essaye. on essaye de comprendre surtout si la croissance, et c'est ça le but de cet atelier, si la croissance, c'est quelque chose qui est jouable. C'est ça. C'est ça qu'on cherche à savoir. C'est ce qu'on nous vend quotidiennement, hein, on essaye de savoir si c'est jouable. Et déjà, là, on a des doutes. Lorsqu'on voit, mais c'est pas le seul élément de doute, hein, lorsqu'on voit la corrélation de la courbe de la consommation des ressources naturelles finies et de la courbe du PIB, PIB égale croissance, hein, la croissance, comme ils l'appellent eux, c'est ça la croissance, c'est le PIB. Bon. Eh bien, on se dit, quand l'ADMC va baisser, le PIB va baisser. Donc on a des doutes. En tout cas, on n'a pas aujourd'hui d'explication par les économistes officiels de comment on va faire pour faire continuer à faire tomber le PIB avec une diminution de la DMC. Personne. N'est en mesure de l'expliquer. Ça qu'on pointe.
Est-ce qu'on a une explication de la, comme tu dis, de la corrélation entre les deux courbes?
Non, mais c'est pas ça.
S'il n'y a pas de corrélation, tu peux dire n'importe quoi.
Oui.
S'il y a une corrélation, s'il n'y a pas de causalité,
tout simplement, nous, ce qu'on dit aux économistes croissancistes, leur dit, écoutez, jusqu'à présent, on a une corrélation. Maintenant, on a comme ça. Là, maintenant, vous êtes d'accord, on va avoir une courbe comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait la courbe bleue? Et eux, ils nous disent, elle va continuer à monter. Et on leur dit, pouvez-vous nous expliquer par quelle magie, ici? Alors, pourquoi ça a toujours été parallèle, et qu'à partir de là, c'est plus pareil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Eh bien, il faut prouver qu'il y a une causalité.
Non, voilà, on leur pose
la question. S'il y a une causalité, effectivement, si on ne sait pas,
on leur pose la question, et personne ne répond à cette question. Voilà. Donc, on a
attendu. Pour répondre à ta question, si tu veux savoir comment estimer une valeur d'extrapolation, il faut que tu vas d'abord savoir s'il y a une corrélation entre les deux. S'il n'y a pas de corrélation, on ne peut rien prévoir.
Pas une corrélation, une causalité.
Une causalité. S'il n'y a pas de causalité, on ne peut rien prévoir, c'est tout. Il ne faut pas penser. Il faut sortir de l'esprit ce que ça représente du point de vue pratique. C'est des mesures de chiffres, de phénomènes. Bon, que ce soit économique ou autre chose, on pourrait l'appliquer à n'importe quoi. Quand Newton a fait sa théorie en vie au XVIIIe siècle, il a prévu le mouvement des corps célestes. On a fait des mesures, on a vu que, effectivement, les corps se déplaçaient suivant sa théorie. D'accord. Et là, en économie, tu ne peux pas faire ça?
Non, mais l'économie, c'est pas une science exacte, on est d'accord.
Non.
Alors, à ton avis, il y a combien de pourcents de chances? Non, mais je te pose la question, tu me réponds, tu ne me réponds pas. Laisse-moi finir la question. Il y a combien de probabilité, de chance, c'est très à la mode, le GIEC il part que comme ça, hein. Il y a tant de pourcents de chance que. Bon. Il y a combien de pourcents de probabilité pour qu'il y ait une causalité entre la DMC et le PIB, à ton avis?
Bah, j'en sais rien.
Bon, t'en sais rien, très bien. Attends,
c'est le
vrai.
Si t'en sais rien, c'est bon. Si on n'a pas répondu à ça, c'est pas la peine d'aller plus loin.
Mais non, mais tu n'en sais rien. Très bien, t'en sais rien.
Et tirer des conclusions sans le savoir, ça tient pas tout. Voilà, c'est tout. Alors, c'est pas spécialement l'économiste. Pour admettre deux courbes qui correspondent à tout à fait autre chose, ça parle.
Bon, tu penses qu'il y a zéro probabilité pour que ça soit une causalité?
Je te dis que tant que t'as pas fait une étude de causalité, tu ne peux rien dire. Point barre.
Ah ben, l'étude de causalité, elle y est.
Ah bon?
Oui. Parce que quand on étudie le processus industriel, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois pas, tu sais pas comment ça marche le processus industriel? Bon, c'est qu'on rentre, il y a des inputs, on rentre de l'énergie et de la matière. Hein, la métallurgie, c'est de l'énergie et de la matière. Voilà, bon, donc, ça produit, ça fabrique un produit de la société industrielle, qui est valorisé effectivement avec ton indice que tu trouves, indice à la con, d'accord, le PIB. Hein, donc on a. Ça, c'est pas mal ça ici. On a la machine industrielle. Là, on a un input vert de DMC, hein, et là, on a un input d'énergie. En vert. Bon. Là-dedans, ça tourne. Et puis ici, on a du PIB. Et puis là, on a du garbage. Alors, on a de l'entropie, là. On a de la saloperie dégradée.
De l'usure.
Bon. C'est ça, le processus industriel. Le processus industriel ne peut fonctionner que si tu fais rentrer de la matière et de l'énergie. Avant le processus industriel, ben, c'était ça, là. Où ils sont les... C'était là, le néolithique, le PIB, effectivement, il est égal à zéro. Voilà, il est égal à zéro parce qu'il n'y a pas de machine. Bon, c'est-à-dire qu'on me fait rentrer.
Bah, il n'y avait pas de capitalisme non plus. Hein.
Ben évidemment.
Non, mais le capitalisme, il ne faut pas se braquer sur le capitalisme, c'est, disons, c'est le processus industriel. Le capitalisme, c'est une façon sociale, hein, c'est une construction juridique du capitalisme pour exploiter au profit de quelques-uns le système industriel. Ce qui nous occupe, nous, et via Rogan, c'est le système industriel. Le système industriel, c'est qu'on sort de chasseur-pêcheur-cueilleur. Chasseur-pêcheur-cueilleur, c'est que de la basse entropie, hein, c'est-à-dire je prends un fruit, je vais piquer un poisson, et je prends au collet un lapin. Voilà. Bon. Et le collet, je le fais avec de la liane, et puis des bouts de bois. À partir du moment où il y a moins de 1000 ans, il se passe la révolution néolithique, on commence à rentrer d'énergie et de la matière. Hein, on a commencé par trouver du cuivre. Là, un jour, il y a un truc jaune, et c'est du cuivre. Bon. Et il y a une machine qui commence à transformer les deux inputs énergie-matière en PIB. Je suis désolé, en PIB. Alors, c'est une somme d'objets, une somme de produits, auxquels on va conférer un certain prix arbitraire, je suis tout à fait d'accord, mais ça c'est plus mon problème, c'est eux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une somme de produits, hein, on va avoir un truc comme ça, là, somme de produits. Une somme de produits, comment est-ce qu'on l'a? Comment est-ce qu'on la mesure? J'ai une table, j'ai une chaise, une voiture, un immeuble. Comment est-ce que je mesure tout ça? Bon, ben, eux, ils ont dit, on voit le prix que ça coûte, le prix qu'on le vend, on enlève les consommations intermédiaires, et ça s'appelle le PIB. C'est grosso modo la mesure du chiffre d'affaires. Ça revient, pour une entreprise, à mesurer sa croissance à son chiffre d'affaires. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà géré une entreprise, mais quand je fais 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires à la fin de l'année, que l'année suivante je fais 3 millions une année, l'année suivante je fais 4 millions de chiffre d'affaires, je ne suis pas forcément plus riche parce que j'ai fait 4 millions de chiffre d'affaires. Il faut voir si ma marge a augmenté. C'est-à-dire... Bon. Donc, mesurer... Effectivement, le PIB, en tant que témoin d'une activité, c'est comme si une entreprise, elle mesure que son chiffre d'affaires. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, déjà, le PIB est complètement débile pour ce qui concerne la croissance. Mais c'est l'indice qu'ils ont choisi, utilisé. Et c'est de ça qu'on parle. Voilà. Bon. Donc lorsque tu dis que la causalité n'est pas scientifiquement démontrée, parce que on voit ce parallélisme de la DMC et du PIB comme ça depuis ce temps, hein, bon, depuis 1850, et tu dis c'est pas la causalité, c'est pas démontrée parce que c'est pas une loi mathématique, etc. Et c'est là que je te pose la question en termes de probabilité, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pas une équation qui dit que alpha DMC égale bêta PIB, multiplié par un paramètre, je ne sais pas lequel. Et donc je te dis quelle probabilité y a-t-il, hein, pour que ça soit effectivement, il y ait effectivement une causalité. Tu me dis, je n'en sais strictement rien. Bon, parce qu'il n'y en a peut-être pas du tout. Pas exagéré, il n'y en a pas du tout. Il y a, alors, ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas de DMC,
est-ce qu'il y a un article d'économie qui donne ce résultat?
Ah bah oui, bien sûr, plein, des centaines.
Qui ont mesuré le coefficient de causalité entre les deux?
Bah moi, je ne sais pas.
Oui, mais c'est là. C'est la base. Mais je dis, toutes les théories économiques, enfin, toute la science, Ricardo, moi j'ai fait une école de commerce, t'apprends ça. Bon, ben, il est bien évident que ils sont pas quand même, comment dire, en dehors de la plaque à ce niveau-là. Ils te disent qu'il y a une combustion ici industrielle, une machine industrielle, qui utilise des ressources naturelles finies et de l'énergie, donc de l'énergie et de la matière, qui le transforme. Alors ça, l'entropie s'oublie, hein.
Pour eux, il n'y a pas
de dégradation.
Je ne voudrais pas trop insister, mais l'entropie, c'est une mesure d'une quantité physique, d'un flux.
Oui.
Il y a une entropie à l'entrée et une entropie à la sortie.
Oui.
On crée l'entropie, c'est-à-dire qu'elle augmente. C'est tout.
Oui, elle augmente.
C'est pas une sortie physique, une entropie. Ah,
c'est la mesure d'une dégradation de quelque chose.
Oui, c'est comme la température, le débit.
Non, mais. D'accord.
On ne sort pas de l'entropie.
Attends, on va y venir. Ok. L'entropie, ça veut dire que. L'énergie ici, hein, l'énergie qui rentre, c'est une énergie libre, elle est utilisable et il sort ici une énergie, parce que la première loi de la thermodynamique dit qu'il y a conservation. Bon. La deuxième loi dit qu'il y a dissipation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'énergie qui est dissipée, qui n'est plus récupérable.
Et l'entropie augmente.
Et l'entropie augmente. Et c'est la même chose aussi, tu sais.
Je pense que c'est un rapport avec l'économie.
On est en plein dedans, là. Je suis désolé. Hein. Oui, parce que Roegel, c'est la bioéconomie, justement, qu'il introduit dans l'économie la thermodynamique. Bon. Et je ne sais pas si tu te souviens, une fois, à une conférence, j'ai fait l'intervention, j'ai parlé de la quatrième loi de la thermodynamique, tu m'as dit, il n'y a pas de quatrième loi de la thermodynamique. Bon. Roegel propose justement une quatrième loi de thermodynamique parce que. Non, attends, c'est. Bon. Oui. Parce que il y a dégradation de l'énergie. Tout le monde sait, Bernard Brune aussi qui a fait un peu un bouquin de la dégradation de l'énergie, grand physicien français.
Qui ça?
Bernard Brune.
Brune.
Brune, je crois qu'il y a un H ici.
Qui se suit là.
Ouais, Bernard Brune. Bon. C'est un livre très intéressant sur la dégradation, ça s'appelle la dégradation d'énergie. Bon, enfin, bref. La matière aussi se dégrade.
Voilà. Ça dépend ce qu'on appelle dégrader.
Oui, si tu as 100 kilos, hein, bon, ben là, tu n'as plus que 98. Il y a 2 kilos qui se sont.
Moi j'ai quand même appris. J'ai fait beaucoup de bilan matière, il rentre autant qu'il sort. Hein. Autrement, c'est que le bilan matière, il est faux. Quoi.
Non. Dans la. Il y a une.
On va arrêter là, parce que là, c'est du n'importe quoi. On fait un bilan matière-énergie sur un système, il sent autant qu'il.
La matière se dégrade par le frottement, par exemple.
Le frottement,
hein. Ouais. Il y a une perte de matière.
Il y a quoi ?
Il y a une perte de matière.
Ah non.
Ben si.
La seule perte de matière, c'est dans les dépôts d'Einstein, c'est quand il y a une partie de l'énergie. La matière qui se transforme en énergie, ouais. C'est au niveau de 10-10, alors plus haut.
Lorsque un outil travaille, d'accord ? Il y a de la matière qui se dissipe.
Si.
Alors,
tu montes un kilo, il sort un kilo, hein. Le reste, c'est
la même forme,
mais... Alors là, c'est la moitié, ça.
Ça se dégrade.
Qu'est-ce qu'on appelle dégradation?
Mais ça veut dire que tu as une perte de la matière, tu as une...
C'est le la physique, bien sûr que non, il y a conservation de l'énergie et de la matière. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? Excuse-moi, non, je ne veux pas être méchant, mais là, ça développe quand même grave. Quand tu fais un boulot, effectivement, si tu bois, tu as de la sûre, mais la sûre, si la sûre plus le bois, ça fait toujours l'entrée.
La dégradation de l'énergie, lorsque l'énergie entre dans le processus de fabrication, mm-hmm. bon, il y a une partie de l'énergie qui n'est pas récupérable après.
Ça, c'est autre chose.
Qui se dégrade.
Bon. C'est
la matière, c'est pareil. Il y a une perte de matière.
Qui n'est pas récupérable.
L'outil. Tu prends une bêche.
Et quand elle...
Une bêche, elle va petit à petit, elle va perdre du poids.
Mais bien sûr,
et voilà.
Mais au total, au total, ce que tu perds du poids,
et
de quoi tu perds,
il est dans la tête.
C'est pas bien sûr.
Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, c'est le.
Mais il veut dire qu'il est plus utilisable en tant que bêche.
Plus utilisable.
Ouais, c'est arbitraire, ça dépend ce qu'on dit utilisable ou pas utilisable.
Ah ben, alors, est-ce qu'il est utilisable? C'est-à-dire que la dégradation de la matière, la dégradation naturelle d'un outil, est-ce que c'est récupérable?
Non, physiquement, rien s'y oppose.
Oui, non,
mais... Ben, récupère-le.
C'est ça, la question.
Ce que je veux dire, c'est que la notion de récupérable ou pas récupérable, elle est très arbitraire. Ça dépend des process, ça dépend des autres choses. Un moteur thermique essence, il fait 32-33% de rendement d'énergie. Un diesel, il fait 40%. Un électrique, il fait 98%. Bon, tu peux considérer que le complément est perdu, ça dépend.
Oui.
Ça dépend, non? Par exemple, dans un système thermique, si tu récupères, tu peux récupérer une pompe à chaleur, une partie d'énergie que tu prends perdue, tu montes pas moins grandement.
Oui, mais tu ne récupéreras jamais 100%.
Bon, et pour la matière, c'est pareil. C'est-à-dire que tu fais une bêche, tu fabriques la bêche, même si tu...
C'est une notion de la consommation d'énergie un peu paysanne, je trouve.
Comment?
Non, la matière, là, ça c'est rigolo, l'histoire de la pêche.
Ça part.
Attends, pourquoi c'est rigolo lorsque. Non, mais attends,
Mais la conservation de la masse, comme je te dis, c'est quand même Lavoisier qui l'a
mais non, mais
et un petit moment.
Mais on ne conteste pas, même pour l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée. On ne conteste pas ça. Par contre, ce qu'on comptait, c'est que chaque fois qu'on enclenche un processus industriel...
Tu as des déchets.
Voilà.
Tu as des déchets qui ne sont pas récupérables.
Ça dépend.
Non, mais attends.
Jusqu'à un certain point.
Mais voilà. Jusqu'à quel point?
Ben, ça dépend de l'efficacité du processus de recyclage des déchets.
Alors, attends. Avant de parler du recyclage... On parle de la dissipation de la matière sans recyclage. Tu prends une bêche, un soc de bêche, hein, et puis tu vas l'utiliser. Bon, ton soc de bêche, quand il est neuf, il fait 5 kg, par exemple. Et puis, au bout de 2-3 ans, combien il fera de kilos?
J'en sais rien.
S'il te plaît, réponds à la question. Dis pas « j'en sais rien ». Et répond à la question, le soc de bêche qui pèse 5 kg, au bout de 5 ans, combien il va peser?
Moins de 5 kg.
Moins de 5 kg, tu es d'accord?
Ouais,
ouais. Bon, alors où...
Et ça ne veut pas dire que la masse est perdue, ça.
Mais on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Bon. Non, non, monsieur, on n'a jamais dit ça. Justement, on a dit le contraire. On a dit que rien ne se perd, rien ne se crée. L'énergie... L'énergie reste toujours pareil et la masse elle reste toujours pareille aussi. Ce qu'on dit c'est la phase l'utilisable par l'homme. On dit que le processus industriel dégrade les deux inputs qu'il utilise, hein, c'est-à-dire qu'il va utiliser de l'énergie qui va pouvoir être récupérable, puis une autre qui n'est pas récupérable. Je sais que tu me prouves qu'on peut la récupérer. Hein. Bon. Et pour la bêche, avant même de parler du recyclage. La bêche, ton soc de bêche qui va peser 5 kg et que tu vas utiliser comme ça pendant 4-5 ans, au bout de 4-5 ans, on va dire qu'il va peser 4,5 kg. D'accord? Bon, et les 500 grammes qui manquent, où ils sont?
Dans la terre.
Voilà, ils sont quelque part.
Bon, si tu as la bêche en or.
Restons sur le raisonnement. Non, mais faisons pas parce qu'on peut rigoler là. Restons sur le raisonnement. Non, mais si, tu rigoles. Les 500 grammes.
D'acier, tu peux le récupérer.
Alors, première question.
C'est du poignon,
Première. Alors, oh, mais attends. Première question. Où ils sont?
c'est
dans la terre.
Ou peut-être dans l'air.
Non,
et alors, est-ce qu'on peut les récupérer?
Avec de l'énergie, en théorie, avec de l'énergie, on peut tout faire.
Non, mais et répond à la question, est-ce qu'on peut les récupérer?
Physiquement, oui. Pratiquement, non.
Oui. Donc on ne peut pas le récupérer, pratiquement. On ne peut pas le récupérer.
Pas tout,
non.
Ah mais non, mais ça veut dire qu'il y a une dégradation de la matière. C'est-à-dire que le processus industriel.
Non, il y a une dégradation de l'outil, pas de la matière.
Ah ben, au départ, tu as 5 kg de fer, enfin de minerai de fer, enfin bref, on va pas.
Le fer ne se dégrade pas. Puis il s'oxyde, mais enfin. Les atomes.
Non, mais cherchons pas la petite bête, la matière. Il y a 500 grammes de matière qui va
changer de.
Oui, on est d'accord, mais on ne peut pas la récupérer.
Ah, c'est très difficile.
Physiquement, si, pratiquement, ça n'a pas d'intérêt. Ouais.
Ça n'a pas d'intérêt, pourquoi?
Parce que ça demanderait.
Ah, donc c'est pas. Il y a un bilan énergétique qui est pas jouable.
C'est clair.
Bon. Et ça, on n'a pas encore même parlé du recyclage. Parce que ensuite.
Si, la validité du recyclage, elle va beaucoup dépendre dans tous les process de l'énergie qu'elle nécessite.
Oui, mais on est d'accord, mais dans ça, on l'a déjà fait. Là, on a ici le truc du recyclage. Le recyclage, il faut faire la collecte. Alors, toutes tes bêches, là, on fait symbolique, hein. Bon, il faut faire une collecte. Pour collecter toutes tes bêches que tu veux recycler, il va falloir que tu aies un camion qui va utiliser de l'énergie et qui va aussi dégrader de la matière parce qu'en tournant, en roulant, il y a une partie de sa carrosserie qui va partir en brioche. Bon. Ensuite, ce camion, il va falloir qu'il déverse. C'est pas vrai ce que je dis?
Si.
Bon. Ce camion, alors.
C'est epsilonesque dans le bilan.
Comment?
C'est epsilonesque dans. L'usure du camion est epsilonesque dans le bilan total.
Et l'usure du camion est epsilonesque? L'usure. Un camion, ça dure combien de temps? Alors, attends. L'usure de camion, c'est epsilon. Un camion, ça dure combien de temps? Combien de temps ça dure un camion? Ça dure 1000 ans?
Tu veux dire.
Oui, non, tu dis que c'est epsilon.
Son imperméabilité, c'est pas la perte de matière.
Mais le camion, il va pas perdre sa matière tout seul, là, comme ça, en 1000 ans
longtemps, ouais.
Ah oui, oui, mais longtemps, quoi, 1000 ans. C'est longtemps, 1000 ans? C'est longtemps, 1000 ans? C'est rien, ça, 1000 ans, c'est un clignement de paupières, ça, 1000 ans. Parce que quand on en parle de développement durable, il s'agit de savoir si on construit un truc pour 100 ou 200 ans, ou si on construit pendant 10 ans. Parce que pendant 200 000 ans.
C'est pas le fait que le camion va se déglinguer, c'est le fait que son opérabilité ne va plus être valable, il va plus fonctionner. Ce qui n'est pas, pas relié à la perte de matière. C'est autre chose, c'est un autre problème.
Non, mais c'est. Mais si on parle de la matière, elle s'en va. Elle s'en va.
Si un camion est utilisable que 20 ans, c'est pas parce qu'il use ses pneus ou parce qu'il perd ses pare-chocs.
Non mais c'est aussi ça, c'est aussi
c'est parce que le vieillissement du système fait que l'opérabilité va diminuer et que donc il va plus fonctionner correctement. Mais c'est pas une question de perte de matière.
C'est aussi une perte de matière. Le camion tout neuf, qui va peser 2 tonnes,
bon,
20 ans après, il va peser 2 tonnes ou moins de 2 tonnes?
C'est pas ça, c'est pas la perte de matière qui va faire qu'il fonctionne ou pas.
Non, mais je n'ai pas dit ça.
L'important, c'est de savoir combien de temps il va fonctionner.
Non, mais je n'ai pas parlé du temps que va fonctionner le camion. Je parle matière. Je parle quatrième loi de la thermodynamique. Je parle dégradation de la matière.
Dis-moi probablement parce que la quatrième, elle vient de sortir.
Non, la quatrième, si tu avais lu George Corrigan en 1971, bon, tu aurais vu qu'il propose une quatrième loi de thermodynamique. Bon, tu as le droit de dire que Corrigan, c'est un imbécile. Bon, ok.
Bon. Je te demande de me la rappeler.
Mais ça fait 4 fois que je te la rappelle.
Je l'ai vu à la vidéo.
Bon, voilà. Alors, bon, on parle de la dégradation de la matière et on parle de la dégradation d'énergie parce que l'idée, c'est que le processus industriel qui utilise de l'énergie et qui en récupère aussi, qui utilise de la matière et qui en récupère aussi, à chaque fois qu'il bouge le petit doigt, il dissipe de l'énergie qu'il ne pourra jamais plus récupérer et il dissipe de la matière qu'il ne pourra jamais plus récupérer. La somme de toutes ces matières et de toutes ces énergies étant limitée, c'est un truc fini, tu vois, c'est un chiffre fini. Si chaque fois que tu en perds un peu, si chaque fois que tu bouges le petit doigt, c'est-à-dire que tu fais une opération de la chaîne industrielle, tu perds, tu dissipes, tu ne perds pas, hein, tout se conserve, ouais, d'accord, tu dissipes, c'est-à-dire que tu rends ce qu'appelle de l'énergie liée, c'est-à-dire de l'énergie qu'on n'arrive pas à récupérer par rapport à l'énergie libre qui est l'énergie utilisable. L'énergie utilisable, elle se divise ensuite en énergie produite et en énergie inutilisable. Et la matière, c'est la même chose. La matière, il y a une dégradation de la matière, une dissipation. La matière, elle part en brioche. Alors que quand elle est...
Ça, dans... c'est pas facile à mesurer ça.
Non mais...
C'est un peu arbitraire.
Non, même si c'est... Mais, non, mais, attention les mots que tu emploies. Infinitésimal, je suis d'accord. Arbitraire, non. C'est infinitésimal, peut-être. Seulement, infinitésimal plus.
La possibilité de récupération, elle est arbitraire dans le sens où elle dépend du process qu'on met en
Mais tout c'est à fait vrai. D'accord. Tout à fait d'accord. Alors après, là, on parle du recyclage. Bon, le recyclage, on est bien d'accord, là, ce petit dessin. Bon, ça nécessite, pour recycler de la matière, il faut de la matière. Il faut de l'énergie.
Surtout de l'énergie.
Oui, et de la matière aussi. Alors ça, justement, Roegen le dit, et il dit une des carences des économistes modernes qui passent au recyclage, ils ne voient que énergie. Bon, tout le monde est d'accord, bon, personne ne va te dire on peut recycler sans énergie. Mais il faut aussi de la matière. Et quand tu recycles, tu perds de la matière que tu recycles, c'est-à-dire tu recycles...
Pas 100%.
Oublions les chiffres, hein, tu recycles... 10 kilos, tu en ressors que 9, donc tu perds de la matière dans le recyclage, tu utilises de l'énergie et tu utilises de la matière aussi. C'est-à-dire tu utilises le camion et tu utilises l'usine. Le camion il tourne pour collecter et l'usine elle tourne, il y a des machines qui tournent pour faire
des outils.
Il te faut du pétrole ou du gaz
pour chauffer. Non, pas jouer sur les mots, des outils, des... Oui,
le camion c'est un outil.
Oui, voilà. Non, mais c'est de la matière. C'est de la matière.
C'est-à-dire qu'il faut investir en outils pour faire marcher le système.
L'idée, si on voit le diagramme du truc, hein, c'est que pour recycler de la matière, il faut de l'énergie.
Donc de la matière.
Non, il faut de, oui, enfin,
si,
oui,
si,
pas,
si, si, il faut du gaz,
enfin, il faut fuel. Pour recycler de la matière.
Si on fait l'énergie sur l'énergie solaire, il n'y a pas de matière.
Pardon. Si on quoi?
On a besoin de matière pour avoir d'énergie.
Oui.
Si on fait de la combustion.
Oui, mais l'énergie nucléaire aussi, il faut de l'uranium.
Oui, mais enfin, la perte de matière.
Elle est faite, je te l'accorde.
En passant.
Oui, il y a
niveau de l'énergie.
Non, il y a bien ces trois postes de perte dans le recyclage, qui sont la perte de la matière elle-même, c'est-à-dire que tu recycles 100 kilos et tu as que 90.
Dissipation, on ne parle pas de perte parce qu'il n'y a pas de...
Dissipation. Ouais,
dissipation.
Perte, c'est vrai. Perte, Lavoisier, bon. Voilà. Dissipation. Dissipation, enfin, disons que... Bon, dissipation, il y a dissipation de matière pour les outils utilisés, parce que tu recycles pas simplement avec un rayon laser comme ça, bon, les outils utilisés, les outils qui sont des outils de collecte et des outils de traitement,
hein, et de transport.
Oui, collecte. Ouais. Et puis, dissipation de l'énergie. Voilà. Bon, voilà, on a bien révisé. Hein. on a bien révisé. Alors, on va essayer là de reprendre la lecture commentée de Roegen. Ce qui est bien avec Roegen, c'est quand on lit une phrase, tu vois, tu lis une phrase de 3-4 lignes, on s'arrête et puis là, on parle. Bon. Le premier chapitre, c'était l'entropie. Bon, on a parlé donc de l'entropie, premier principe de la thermodynamique, deuxième principe de la thermodynamique. Et puis, le chapitre 2, c'est l'énergie et les mythes économiques. Donc, Roentgen nous parle des mythes économiques, un petit peu comme un anthropologue qui nous parle des mythes qui construisent l'imaginaire humain. Alors, Lévi-Strauss nous, avec son structuralisme, nous parlait des mythèmes, c'est-à-dire que la pensée humaine est faite d'unités structurantes qui sont une association, une addition de tout un ensemble de mythes. Et finalement, les théories économiques qui sont en vigueur actuellement sont basées en partie sur un certain nombre de mythes que dénonce Roentgen. Et je vais vous lire quelques extraits. Les mythes ont toujours tenu un rôle primordial dans la vie de l'homme. Oui, puisque les anthropologues disent même que l'homme est agi par des mythes. À la vérité, adhérer à un mythe, agir en accord avec lui, c'est ce qui distingue l'homme parmi tous les êtres vivants. Les anthropologues sont d'accord sur ce principe, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas agis par des mythes. Ils sont agis par l'instinct.
On pourrait peut-être avoir des surprises de nous faire ça.
Oui. Bon, on va essayer de pas trop chinoiser, sinon on n'avance plus. Voilà. Bon. Alors, premier mythe. L'homme croit qu'il peut mouvoir les choses sans consommer d'énergie, ce qui est le mythe du mouvement perpétuel de première espèce. Donc, Roentgen distingue deux mythes du mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel de première espèce, qui est l'idée qu'on peut mouvoir une chose sans consommer d'énergie.
Alors, c'est pas vrai, non ?
Non, mais...
Bien sûr.
C'est un mythe. C'est un mythe qui agite. Alors, il est jamais exprimé en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un économiste ou un scientifique qui va venir au journal 20h pour nous dire
« J'ai trouvé. »
Écoutez, on n'a plus de soucis à se faire parce que... je pense qu'on peut mouvoir les choses sans consommer d'énergie. Bon, c'est pas dit comme ça, mais on nous vend des idées qui font que l'homme de la rue, lui, est pas loin. On fait un micro-trottoir, on serait surpris. L'homme de la rue est pas loin, enfin, certains, par là de penser que, notamment ceux qui sont très très. Qui sont très très pris par la théorie des complots, qui disent notamment que les pétroliers font en sorte de tuer dans l'œuf toutes les recherches sur des énergies nouvelles ou des mécanismes nouveaux, bon, par exemple, mais il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'on va pouvoir trouver un truc pour mouvoir les choses sans consommer d'énergie.
Ben oui, dans l'espace.
C'est un mythe.
C'est pas un mythe dans l'espace.
Bon.
Voilà.
Alors, on parle de l'industrie, hein. On parle de la société industrielle.
Mais que le mouvement, que ça soit impossible, c'est une mathématicienne allemande qui a trouvé ça dans les années 20. Le fait qu'on est obligé qu'on ne peut pas avoir un mouvement perpétuel est dû au fait que la translation dans l'espace ne transforme pas les lois physiques. Donc tu regarderas sur Wikipédia.
Oui, mais alors ce qui est intéressant.
C'est une propriété de la d'isotropie de l'espace par rapport au mouvement de translation.
Bon, là tu nous donnes effectivement un argument très 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 précis et scientifique pour dire que le mouvement perpétuel de première espèce, ça n'est pas possible. Bon. Mais ce qui est intéressant, bien sûr que le mouvement perpétuel de première espèce n'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à débusquer dans les différents idéologies ou discours qu'on entend ici et là, les mythes, enfin, lorsque ce mythe-là pointe le bout de son nez. C'est très très amusant d'essayer de voir dans les discours économiques ce qui procède de ce mythe.
Exemple, la voiture électrique. Alors, bon, j'ai trouvé un truc.
Enfin, je sais pas, mais il y a des fumistes partout. Mais qu'on en soit encore à ça dans
dans les universités économiques, il faut quand même pas déconner. C'est il y a longtemps que ce problème-là.
Non, mais c'est bien de le dire. C'est bien de dire que c'est un mythe qui imprègne un certain nombre de discours. Deuxième mythe, oui.
Si,
c'est très intéressant. Si.
T'as vu quelqu'un qui t'explique qui va.
Oh oui, tu vas sur Internet, sur Facebook, tu vas voir. Non mais ça veut dire.
Je te parle de l'université.
Mais non mais. C'est ce que j'ai dit au début. Au début, oui, non mais bon, faut écouter. Au début, j'ai dit, c'est pas quelque chose qui va être soutenu par des scientifiques patentés. C'est des mythes.
C'est dans l'esprit des gens.
Qui sont rampants et qui sont utilisés justement par des gens du développement durable mercantile, hein, qui jouent sur le fait qu'on va pouvoir trouver des choses. Voilà. Oui, bon, enfin, bon, justement, c'est. On n'a peut-être pas suffisamment d'exemples en tête, mais c'est amusant d'essayer de voir. Essayer de débusquer ce mythe chaque fois qu'il se trouve dans un discours ou dans un autre. Deuxième mythe, alors c'est le mythe du mouvement perpétuel de deuxième espèce, c'est le mythe selon lequel on peut utiliser la même énergie continuellement, toujours utiliser la même énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation. Ce qui sort, rentre, c'est le principe mécaniste, hein. La théorie économique mécaniste, ce qui rentre, sort, on réutilise toujours la même énergie. Ça, c'est le mythe du mouvement perpétuel, deuxième espèce. Voilà. C'est ça. C'est un mythe qu'on retrouve dans un certain nombre de discours.
C'est lié, je crois, dans l'interroge, l'entropie.
Oui. Oui. C'est-à-dire, la plupart des gens ne prennent pas en compte l'entropie. Quoi.
Voilà. Voilà. Donc, alors, autre mythe classique, le mythe de l'homme qui réussit toujours à trouver de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de les asservir à son profit. C'est, quoi qu'il advienne, nous trouverons bien toujours quelque chose. Ça, c'est un mythe extrêmement ancré. Chaque fois qu'on montre qu'il y a une difficulté qui arrive, voire une impossibilité, et que la solution ne paraît pas évidente, n'existe pas...
On va en trouver une plus tard.
Voilà. On a l'idée qu'on va trouver une plus tard. Et il y a une formule qui résume bien ça, c'est « Je fais confiance à l'intelligence humaine pour trouver toujours les solutions au problème qui lui est posé. » Ça, c'est un mythe très, très, très ancré.
Comment ?
Je ne sais pas comment on est dans
oui, c'est une croyance.
C'est très répandu.
Je crois que c'est une question qui se pose, justement. Est-ce qu'à des problèmes technologiques, on va trouver des solutions technologiques? Ça fait bien un moment, on se pose la question si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, bon, voilà. Une question à poser, effectivement. On peut en douter.
Oui.
C'est le genre de doute qu'on ne peut pas ni prouver, ni
invalider.
Ni dans un sens ou dans un autre, on n'en sait rien. C'est une impression.
Oui, alors. Face à une difficulté, par exemple, qui paraît évidente, disons, si on continue à puiser du pétrole comme on le puise actuellement, dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrole. Bien. Celui qui n'a pas les connaissances techniques, qui n'a pas les connaissances de la façon dont les corps terrestres recèlent des hydrocarbures ou autres, va dire « Je fais confiance dans les scientifiques pour trouver une solution. » Oui.
C'est une genre de proposition qu'on peut ni prouver, ni affirmer.
Non, mais là, c'est une analyse sociologique. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne cherchent pas... Alors, pourquoi une certaine... Devant des interrogations aussi fondamentales, c'est-à-dire qui conditionnent le mode de vie, des gens qui veulent continuer ce mode de vie, ne cherchent pas Oui, non mais, c'est un vrai problème. Oui, alors comment se fait-il que les gens ne cherchent pas à savoir, à se renseigner pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai?
C'est gênant. C'est la politique de l'autruche, je veux pas voir.
Ah, c'est plus que la politique. Là on parle du mythe. La politique de l'autruche, c'est lui qui dit c'est des choses dont je ne veux pas entendre parler. Ça, c'est la politique de l'autruche.
Ouais.
Bon. Le mythe, c'est celui qui dit on va de toute façon trouver quelque chose. C'est même pas la peine que je m'intéresse à toutes ces affaires d'énergie et de matières premières, parce que. Je suis persuadé qu'on va trouver une solution.
Oui, mais un exemple d'un homme politique célèbre, c'est le père Bush, le père. Hein, c'est le père. Ah non, c'est le fils, pardon. Quand on voit le fils Bush, un jour, il a, en face de discours écologique, bon, il a convenu qu'effectivement, il a un problème. Il a même dit un jour, c'est vrai, les États-Unis sont drogués au pétrole. Il a dit d'accord, on va faire des choses. Mais il est hors de question de mettre en cause le mode de vie américain.
Oui.
Donc là, il faut bien que tu fasses intervenir une croyance pour sortir
de ce problème.
Mais restons un petit peu sur l'analyse. Quelle réflexion ça nous suscite quand on voit le nombre de gens, enfin c'est une proportion de gens assez importante, qui font confiance dans les scientifiques pour trouver des solutions à des problèmes que apparemment.
Il y a des gens qui font confiance beaucoup.
Non, non, mais bon, on ne peut pas hausser les épaules. Toute notre civilisation est basée là-dessus. Hein.
Est-ce que l'homme n'a pas toujours besoin de croire en quelque chose? Avant, on croyait en Dieu, donc comme Dieu pouvait tout et tout, donc maintenant c'est la science qui peut tout. Est-ce que c'est pas. Voilà.
Je crois que c'est de moins en moins, parce qu'il y a 50 ans, justement, l'affirmation de l'entourage, toujours une solution, aurait été massivement approuvée. Maintenant, le doute s'est installé.
C'est vrai.
Alors, est-ce que.
Les causes, c'est parce qu'on se rend compte que les problèmes sont difficiles. Difficile et qu'il y a des cas où on s'est cassé la gueule. Donc, on dit, si on s'est cassé la gueule sur tel sujet, il n'y a pas de raison qu'on ne risque pas de se casser la gueule sur l'autre. Ouais. Il y a deux jours, j'étais au chantier du réacteur thermonucléaire à Canarache,
Titter.
Exemple d'énergie thermonucléaire, d'énergie des étoiles, ça fait 60 ans qu'on dit on va résoudre le problème énergétique avec l'énergie des étoiles. Mais en 60 ans, on n'est pas arrivé. Donc on peut dire on va y arriver, on peut dire on y arrivera là. Ça c'est du ressenti, c'est autre chose.
Oui, mais il faut analyser plus en profondeur, hein, pas se contenter de dire bon c'est comme ça. Parce que là, c'est le fondement même du credo civilisationnel. On a parlé de religion, bon, Ivan Illich a dit les scientifiques ont remplacé les prêtres. Alors, l'homme croit en Dieu. La religion est à quoi ça lui sert?
Je crois que ça continue.
Vous voyez ce que je veux dire?
Là, c'est plus de la thermo, c'est de la sociologie.
Non, oui, mais c'est ça, c'est le mythe. C'est l'économie. C'est l'économie, c'est-à-dire que le citoyen ordinaire pourrait dire oh je n'y comprends rien, je n'y connais rien. Bon, il dit plus que ça. Il dit je suis sûr qu'on va trouver. Oui, non, mais il faut voir à quel point ce mythe est puissant. Il est incroyablement puissant ce mythe.
Il est en perte de vitesse depuis plusieurs
siècles. Ah, alors, est-il en perte de vitesse? Est-il en perte de vitesse? C'est difficile à savoir. En tout cas, il n'est pas en perte de vitesse. Bien, c'est pour faire une.
C'est pour mieux.
Les médias.
C'est pour doser, pour mieux.
ça peut pas être interdit de vitesse, en fait, ça doit être juste dosé, simplement pour mieux manipuler, je pense.
Oui, c'est ça, c'est clair.
Parce que ça peut pas, soit ça n'existe plus, soit ça va, normalement, c'est dosé plus. Pour persister, pour donner un autre encore. Et grâce à tout ça, on va se poser la question.
Ce...
On n'aura pas la réponse pour
un. Oui, oui, mais alors, ce mythe, moi, me paraît le plus important aujourd'hui. Largement de tout. C'est un mythe économique. C'est un mythe économique.
Et puis ce mythe permet de croire en la croissance éternelle.
Mais c'est
clair.
Et
comme l'économie est basée là-dessus.
C'est la religion capitaliste.
Voilà. Oui, mais alors si
tout s'effondre entre nous, à partir du moment où on commence à mettre en doute qu'en effet, il n'y a pas une croissance éternelle, qu'il n'y a pas une matière éternelle, ça veut dire qu'en fait, en effet, toute leur construction économique qu'on y vend depuis des années, c'est fou. Parce que tout est basé en fait sur des croyances, un empilement de croyances qui finalement à la base ne tient pas. Et donc ça veut dire qu'après, les politiques, enfin, il faut qu'ils se remettent en cause. C'est vrai que autant il y a un peu, il y a des gens qui commencent à se poser des questions, mais au niveau politique, on n'entend pas du tout ce discours de croissance.
Oui, alors justement,
même si individuellement il y a des gens qui ont des faits, la conscience elle est qu'individuelle, elle n'est pas du tout
collective.
Je crois qu'on peut dire depuis 20 ans que la notion de progrès qui était générativement acceptée en totalité, à 100% presque, il y a de plus en plus de gens qui la mettent en cause.
Mais je me demande parce que, bon, là, effectivement, là pour le coup on n'a pas d'instrument de mesure.
Les sociologues ont fait ça, je pense qu'il y a des sondages.
Oui, alors les sondages. Alors, moi, j'ai pas connaissance de sondages de ce genre-là, à savoir est-ce que vous croyez toujours autant qu'on va trouver des solutions aux problèmes. J'ai pas eu vent.
Ça m'étonnerait bien dans l'école de vos études,
même professeurs. Oui, les sondages, faut qu'ils soient commandés par quelqu'un. Et puis, en tout cas, la mesure de ça, elle est assez difficile à prendre. Il y a quand même un symptôme justement qui irait en sens contraire, c'est que les discours officiels, ils sont toujours comme ça. Les discours officiels sont toujours. On va trouver. Alors, si effectivement il y avait, comme certains peuvent le supposer, il y avait une montée en puissance du doute, on va dire le doute énergétique. Hein,
oui, je crois.
Mais moi je ne crois pas.
Il y a un système.
Ah, si, de même.
Alors,
il y a les manifs sur le climat. Qui font que
le système économique capitaliste ne peut pas survivre si tu n'acceptes pas ça. S'il n'y a pas de solution technique, le système économique capitaliste ne peut pas continuer.
Non, mais nous sommes
c'est pour ça que.
Bien sûr.
La question sur laquelle ça me paraît intéressant de réfléchir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un doute énergétique, hein, on prend cette idée de doute énergétique, qui s'installe de plus en plus dans l'esprit des gens, le doute énergétique voulant dire je me demande, je crois bien qu'on ne va pas trouver de solution en matière d'approvisionnement énergétique et en matière d'approvisionnement de matière aussi, pour continuer à faire fonctionner la civilisation industrielle à ce rythme-là. Voilà la question posée. Hein.
Je crois que oui.
Question. Bon.
Oui,
voilà la question posée. Est-ce que ce doute énergétique augmente?
Oui.
Alors moi je pense que non.
Moi je pense que si.
Alors non, chacun va donner ses arguments. Ça va être intéressant. Hein. Bon. Moi je pense qu'il ne régresse pas et qu'il même il augmente. Et alors Reynald, toi tu penses qu'au contraire le doute énergétique augmente. Et qu'est-ce que tu nous donnes comme argument?
Moi, je n'ai pas d'argument. Il faudrait qu'il y ait des études, comme je dis, des
études. Non, mais... Hein, non, mais
c'est ce que je ressens à travers les discours divers et variés. Surtout.
Oui, dans les discours, mais est-ce que dans les faits?
Non, il faut faire l'effort d'argumenter ses ressentis.
Non, mais même par rapport à la préoccupation des gens, les gens sur le papier... Enfin bon, moi, je fais un peu tout ce qui est les manifs pour le climat et les trucs pour le plus mal. Quand on discute avec les gens, en effet, ils veulent changer, mais ils vont changer quoi? C'est la voiture. Leur changement, c'est la voiture électrique, c'est plus de plastique, c'est des choses comme ça. Mais sur le fond, ils sont toujours dans une idée
de consommer.
Oui.
Alors, est-ce qu'on a
un peu différemment, mais
Restons sur l'option.
Un des symptômes, c'est qu'il n'y avait pas de manif, justement, il y a 10 ou 15 ans.
Voilà, et qu'il y en a aujourd'hui.
Donc maintenant, il y en a.
Bon. Alors, je peux contrer cet argument? Alors, je vais essayer de le contrer. Voilà. Vous me dites. On fait débat argumenté comme ça qu'on voit. Hein. Bon. Vous me dites, le doute énergétique augmente chez les gens. La preuve, c'est qu'il y a des manifs pour le climat. On s'en doute, c'est ça?
Oui.
Bon, alors voilà ce que je vous réponds. Les manifs pour le climat ne sont absolument pas une symptomatique de l'augmentation du doute énergétique, bien au contraire. Pourquoi? Les gens qui militent pour le climat sont en plein dans l'option du développement durable, c'est-à-dire qu'ils veulent que la civilisation industrielle continue sans qu'elle dégrade le climat. Je n'ai pas vu dans les slogans, et je demande qu'à être contredit, c'est-à-dire qu'on le montre, que ces slogans disent « nous n'avons pas de solution énergétique, nous n'avons pas de solution matière, le carburant, c'est-à-dire les sources, les inputs de la machine industrielle, telle qu'on connaît,
sont limités
et vont diminuer, donc la machine industrielle va ralentir et nous sommes très, très dubitatifs quant à la capacité de nos scientifiques de faire continuer le système de production au rythme qu'il est. Nous sommes très dubitatifs. Je n'ai jamais vu aucun slogan comme ça. Au contraire, nous avons des slogans disant nous. Alors là, on va arriver sur les mythes, dire les mythes d'une industrialisation libre de toute pollution. Hein, il le dit un petit peu plus loin. On est en plein dans ce mythe-là. Alors là, on anticipe sur ce mythe qui est extrêmement très fort aussi, qui est aussi fort que le mythe qu'on étudie là, c'est-à-dire le mythe de la croyance dans le fait que les scientifiques vont toujours trouver une solution. Il y a aussi ce mythe, alors cette fois qui est très énergétique, qui est, il est possible de mettre en place un dispositif de production industrielle libre de toute pollution. Alors pollution prise au sens large, puisqu'on a aujourd'hui une énorme confusion entre la pollution et le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique n'est pas de la pollution, le réchauffement climatique produit du CO2, le CO2 c'est la source de la vie, l'effet de serre, c'est deux choses qui sont différentes. Mais on va les associer en termes, je dirais, de péril, bon, mais en les dissociant en termes de nature. On a une pollution. La capacité, et là on retombe sur le premier mythe, nous avons confiance en la capacité de nos scientifiques à nous calculer un système industriel libre de toute pollution, c'est-à-dire qu'il ne va pas produire de CO2, il ne va pas produire de poison. Nous avons confiance. Mais alors nous manifestons parce que il y a des politiques qui mettent sous le boisseau ces scientifiques vertueux, et on veut en fait que les scientifiques vertueux soient au pouvoir afin qu'ils nous calculent un système industriel qui soit libre de toute pollution. C'est ça qu'ils veulent.
Et ça rassure en même temps.
Non mais alors de toute façon l'homme il a besoin d'être rassuré. Je dirais que le doute énergétique, il doit procéder d'une lucidité. C'est-à-dire, je vois lucidement que 1 plus 1, ça fait pas 2 en termes de production industrielle. 1 plus 1, ça fait 1,9 seulement. Bon. Et si on ajoute tous ces 1,9, on va arriver à zéro. Le doute énergétique, il procède de cette lucidité. Et il ne peut être levé que par une solution scientifique, par un scientifique qui vous dit, mais attendez, j'ai la solution pour que 1 plus 1, ça fasse vraiment 2 et qu'on perde plus 0,1. Et moi, je ne vois pas aujourd'hui, une montée en puissance, une montée en puissance de cette lucidité. De cette lucidité qui est de dire, mais, attendez, il y a, dès que je bouge le petit doigt, je perds de la quantité en énergie et je perds de la quantité en matière première qui ne sera plus jamais réutilisable. Alors peut-être que je dis faux, mais en tout cas, ce raisonnement-là, je ne le vois pas monter en puissance. Hein.
Moi, j'aimerais que dans les gens qui se manifestent là-dessus, il y a les deux. Et je pense, mais je ne peux pas le dire, c'est l'impression que la part des gens qui se rendent compte qu'il y a un groupe, il n'y a pas de
solution,
elle augmente. Maintenant, je ne peux pas dire.
Alors, elle augmente, c'est quand même vraiment une large minorité dans les
sociétés. C'est vrai.
Il y a quelques petits mouvements, d'ailleurs, qui sont en général très mal vus, qui sont mis de côté, qui sont au niveau de la politique, au niveau qui sont marginalisés et réprimandés, justement, parce que eux, ils ont un discours beaucoup plus fort, beaucoup plus alarmiste, en disant qu'on va droit dans le mur. Et ces gens-là, ils sont minorités,
et
on ne les laisse pas justement parler, parce qu'ils sont dangereux.
Voilà, écoute, Véronique, je suis à 150% d'accord avec ce que tu dis. Ils sont minorités, et ils sont mis, ils sont ostracisés. Alors, je vais vous donner mon expérience, moi ça fait 10 ans que je suis dans le mouvement militant de la décroissance, et moi je suis un décroissant inéluctable, et je ne suis pas un décroissant volontaire.
Décroissant
inéluctable.
Et t'es pas décroissant.
Je suis pas un décroissant volontaire.
Ah oui, volontaire. Ah oui.
Je suis un décroissant inéluctable.
Ah oui,
et dans, j'ai été marginalisé. Bon, avec, je me suis marginalisé avec plaisir. Hein. C'est pas, je n'en souffre pas. Mais les décroissants, il faut pas croire que les décroissants sont des décroissants inéluctables qui disent, nous allons vers la décroissance. Les décroissants disent nous devons faire, nous devons diminuer de façon volontaire, alors autoritaire, ça c'est autre chose, volontaire, comme ça on va pouvoir durer éternellement. C'est ça le mouvement de la décroissance, le mouvement de la touche, etc. C'est ça l'idée. L'idée c'est pas on va vers le chaos anthropique, hein, c'est pas ça du tout. Hein. L'idée, c'est il faut décroître parce que comme ça, on en garde.
On garde une réserve.
Et alors, il y a une question que je pose.
C'est tout le temps. Un vieil argument politique, il faut savoir bouger un petit peu pour garder l'essentiel.
Oui, mais alors, je pose la question, moi, aux décroissants volontaires qui me disent. Il faut réduire, comme ça, on en garde un peu. L'overshoot day, hein, il nous en a parlé, Ariès. En France, c'est à partir du mois de juin, aux États-Unis, c'est à partir du mois de février, etc. Bon, à partir du mois de juin, en France, tout ce qu'on se consomme, c'est ce qu'il y aura d'un mois en moins pour les générations futures. Bon, alors, donc on va consommer moins, et alors là, je sais évidemment, c'est sûr que si on consomme moins de fer, il y en restera un peu plus pour après, etc., etc. Et moi, je pose la question, combien de temps ça dure, votre truc? C'est-à-dire, on va réduire, très bien. Alors, ce que vous demandez, c'est combien de temps ça dure? Eh bien, c'est une question. D'abord, qu'on ne vous laisse pas poser, ils peuvent devenir violents. Oui, ne vous laisse pas poser. Et c'est une question à laquelle personne ne veut répondre. C'est une question qu'on ne va même pas vouloir qu'on pose. Votre truc, ça dure combien de temps?
Mais ça dépend du taux de réduction.
Oui, mais même. Non, je sais bien que tu vas pigailler en disant ça dépend de ceci, ça dépend de cela. Mais si tu réduis de beaucoup, je sais pas si tu divises par 4, combien de temps ça dure? Alors, je vais y aller, moi, je vais répondre. Ça dure 500 ans, par exemple. Et alors là, je dis, mais tu fous de ma gueule? Tu me vends un truc pour 500 ans? Moi, j'ai un truc durable qui dure 20 000 ans, qui dure 200 000 ans. C'est depuis Homo sapiens jusqu'à cette connerie de révolution néolithique. Ça a duré 190 000 ans, c'est... S'il n'y a pas eu les révolutions néolithiques, ça durerait encore. Ça, c'est durable. Ça, c'est du... Moi, je te demande du 200 000 ans. Hein. Alors, t'es 500 ans. 500 ans, c'est de la récolade. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4-5 générations. On nous vendait un truc pour 4-5 générations. Et les autres, après, qu'est-ce qu'ils font?
Bon, l'inventeur de la machine,
on n'a pas failli. Mais non, mais bon. Parce que quand on dit on va réduire pour que ça dure, ça suppose, et là on retombe sur le disciple de Roy Kahn qui s'appelle Hermann Daly, j'ai inventé l'état stationnaire. Sustainable state. L'état stationnaire. Voilà, j'anticipe sur le mythe de l'état stationnaire. Ils vous disent on va faire un état stationnaire. Et l'entropie là-dedans. Voilà, voilà donc les mythes dans lesquels on est. On est dans le mythe de... Alors, le mythe du développement durable, ça, c'est le mythe capitaliste, croissanciste, qu'on va démonter, notamment avec cette courbe, etc., etc., le découplage impossible. Mais le mythe de l'état stationnaire, ça, c'est le mythe qui agite toute la mouvance décroissante, hein. Parce que les décroissants vont pas vous dire oui, on va décroître parce que au lieu de mourir du chaos dans 50 ans, on mourra du chaos dans 500 ans. Pas la route. Comme produit. En termes marketing, c'est pas un bon produit, ça. Hein?
Enfin, c'est pas mal.
Ouais, bon, enfin, bon. Et par rapport à mon produit à moi, moi j'ai un produit qui dure 200 000 ans, mais qui dure même, qui dure.
Pour les gens actuellement, ils ont rien à faire. Mais attends, ça, 200 000, la différence.
Oui, non, mais bon, il faut pouvoir répondre à... Parce que lorsqu'on dit je vous vends.
Je pense que c'est des extrapolations qui ne sont pas sérieuses.
Je pense que les politiques s'en foutent, mais le problème est mortel.
Ah, mais bien sûr.
Je pense que tu es ça.
Bien sûr que les politiques s'en foutent. Oui.
Bah, le politique, de toute façon, c'est une part à la crème.
Bon.
C'est le court terme. Voilà. De toute façon,
ouais, ça
même 50 ans, c'est beau. Alors, je veux dire la poésie. Donc,
la politique, c'est...
Bah, je veux dire quand même, il ne faut pas jeter aux orties, je te parlais d'ITER, hein, de toute façon, on parle d'autre chose. Hein. Il ne faut pas jeter aux orties les possibilités technologiques qui peuvent arriver, qu'on n'attend pas. Et encore là, quand on parle la fusion thermonucléaire, on sait ce que c'est. Mais au néolithique, est-ce qu'on avait une idée de ce que c'était, ne serait-ce que la roue, parce qu'il n'existait pas. Donc.
Alors écoute, là, Renan, je vais
toute chose égale par ailleurs, dans 500 ans, est-ce que toute chose sera égale par ailleurs, en 1000 ans, en 10 000 ans?
Bon, alors là, pour la première fois depuis 2 heures, je suis d'accord avec toi. Vraiment, d'accord avec toi.
J'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'était un écologiste qui avait dit oh ouais, sur le pétrole, on s'est gouré. Parce que les Américains utilisent le pétrole de schiste, ils sont les premiers producteurs au monde. Donc effectivement, on s'est gouré.
Ils sont les premiers à bousiller la flotte aussi.
Le mec, il s'est pas rendu compte que c'était qu'un petit délai, quoi, et puis qu'après, ça s'est reculé pour mieux sauter. Et c'est une de bol, c'est un mec qui devrait quand même comprendre après ça facilement. Donc bon, alors là c'est dans le côté le pétrole de schiste, effectivement c'est une boîte pour la soif, mais dure pas longtemps. Par contre, si on...
Mais en parlant de soif, ça va quand même assoiffer les gens, quoi.
Hein?
Elle va quand même assoiffer les gens.
Oui, mais pendant le temps qu'elle dure, les gens à court terme, ils en foutent plein les...
Après, ils n'auront plus d'eau.
C'est du spot, oui.
Mais pareil, je reprends, moi je sais, on pourrait prendre ça sur un autre exemple, si on arrivait à faire de l'énergie thermonucléaire, effectivement,
oui.
Et qu'on multiplie par 10 la disponibilité d'énergie pendant des milliers d'années, tous les discours actuels disparaissent.
Oui, alors.
Bon. Mais bon, et c'est pas sûr. Et puis il y a d'autres choses, hein, c'est que.
Le problème, c'est la disparition de l'argent.
Le problème, c'est qu'il faut bien quand même prendre du recul, c'est que les percées technologiques qui peuvent arriver ou ne pas arriver, actuellement, on n'a aucune idée, si on y arrive, on n'a aucune idée de ce qu'on peut trouver ou inventer dans 100, 200 ou 400 ans. Hein? Regardez en arrière, on est 1000 ans. À l'an 1000, quelle était la vision de ce qu'on pourrait faire 1000 ans plus tard? c'est impossible à savoir. C'est impossible. C'est... On peut soupçonner qu'il y a des choses qu'on n'imagine même pas et qui sont possibles, mais c'est de l'ordre de la spéculation.
Mmh. Oui. Alors, c'est le seul argument, effectivement, qui peut venir contredire le pronostic de décroissance inéluctable, c'est que on trouve quelque chose.
On trouve quelque chose qui passe
la table. On ne peut pas l'éliminer.
Mais c'est pas sûr.
C'est pas sûr et les probabilités sont faibles. Parce que on va parler en termes de. Alors, en termes de probabilité, mais pas simplement probabilité jeu de hasard, je lance des dés, est-ce que je vais. Quelle probabilité j'ai de sortir le 6. Non, c'est qu'on va étudier vraiment techniquement, ITER, ce qu'il faut, l'électricité, faut la transporter, faut du cuivre, faut de l'aluminium, on ne peut pas éliminer, c'est-à-dire que malgré les arguments extrêmement, extrêmement forts qu'on a pour dire que le processus industriel va s'éteindre de lui-même parce que...
Ça c'est un mythe aussi, dans les deux sens, je pense que le dire que ça va s'éteindre comme le dire qu'on trouvera toujours une solution, c'est deux mythes.
Non, dire qu'il va s'éteindre, on essaye... Nous, un mythe, c'est quelque chose que tu ne démontres pas. Nous, on essaie de le démontrer.
Ça se démontre.
Non, mais un mythe, non. Oui, mais un mythe, c'est quelque chose qui ne se démontre pas. C'est une histoire qu'on raconte, un mythe.
L'existence de Dieu ne se démontre pas.
Par contre, c'est comme le mouvement perpétuel existe, ça ne se démontre pas, c'est un mythe.
Si, ça se démontre.
Ça se démontre, oui, ça n'existe pas.
Ça démontre que ça n'existe pas. Mais le mythe, c'est « je l'ai vu ». Bon. Lorsque on dit que le processus industriel... Lorsqu'on démontre et qu'on fait des bouquins entiers pour démontrer que le processus industriel a toutes les chances de s'éteindre de lui-même, on n'énonce pas un mythe. Absolument pas. Parce que d'un côté, il y a une phrase avec rien derrière, et de l'autre côté... Il y a des années de travail et on démontre. Non, mais. Là, tu retombes dans ta critique systématique. Bon. Le processus industriel tel que le démontre, tel que le décortique Roentgen, avec l'entrée de matière, l'entrée d'énergie, la dégradation. D'énergie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus récupérer, la dégradation de matière qu'on ne peut plus récupérer. Bon, c'est une démonstration qui n'est pas effectivement absolue et mathématique, mais c'est une démonstration très forte qui donne 90 ou 95% de chance pour que ça soit bien ça. Que ça soit bien ça qui va se passer. Donc ça n'a rien à voir avec un mythe. Laisse-moi terminer, j'ai plus que 10 secondes pour terminer ma phrase. Bon, la différence, celui qui énonce un mythe raconte une histoire, raconte une phrase et ne cherche pas à le démontrer. La théorie bioéconomique de Roentgen, c'est quelque chose qui cherche à démontrer que tu peux descendre en flamme peut-être, mais enfin, bon, c'est la différence. C'est la différence entre un mythe et une.
Je veux dire, si dans tes histoires d'entrée-sortie, tu mets en matière énergie, tu multiplies d'un coup par 100 la rentrée d'énergie.
Oui, alors. Non mais d'accord, attends, mais là tu retombes. Je suis d'accord avec toi. Non mais, bon, si.
Par rapport à il y a 1000 ans,
c'est effectivement.
Si, parce qu'à partir du moment où on a l'énergie quasiment gratuite et disponible, on n'a quasiment plus de frein pour recycler.
Et pour faire de la matière. Tu crées tous les corps de la création.
Si l'énergie n'est pas limitante, on peut recycler quasiment la vie.
Non, le recyclage, d'accord, utilise quand même de la matière.
On tourne dans cette différence. Il vaut mieux pas, évidemment, multiplier trop les besoins et la population.
Ah oui, non mais, attends.
Non mais il y a une solution, moi je vais t'expliquer. de 9 milliards d'individus, on passe à 50 individus et on règle le problème pour des centaines de milliers.
C'est pour plus tard. Non, c'est pour après tout ça. Et on viendra après aux préconisations, aux solutions.
Je pense que la fonction est monotone.
Pour l'instant, on décortique l'économie. On viendra à la politique après, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, pour l'instant, on décortique.
Tu permettras que des fois, l'économique, je le passe à la lunette du physique.
Comment ?
Tu permettras que le raisonnement économique, comme je l'ai fait tout à l'heure, on le passe à la lunette du physique et du mathématique.
Oui.
C'est bon, c'est un autre sujet, mais c'est la validité de tout ce qui tourne autour de l'économie. Il y a un gros doute. C'est pas parce que ça a marché jusqu'à maintenant, d'ailleurs, que ça marche pas.
Non, mais bon, on essaye de réfléchir là-dessus, d'accord ?
Oui.
Quelle heure il est, hein ?
Ben, il est parce que...
Ah, ben oui, ben, on va arrêter une dernière phrase, là. Assimiler le processus économique à un modèle mécanique, c'est admettre le mythe selon lequel l'économie est un carrousel qui n'a en aucune façon la possibilité d'affecter l'environnement composé de matière et d'énergie. La conclusion évidente est qu'il n'est pas nécessaire d'intégrer l'environnement au modèle analytique de ce processus. Donc c'était le principe économique avant Bruegel. On n'intégrait pas l'environnement. Tous les modèles économiques, hein, depuis Adam Smith, Ricardo, jusqu'à Bruegel, c'est que on s'occupe pas de l'environnement. Même Marx, Marx a un petit peu soulevé quelques petits problèmes. Il y a d'ailleurs un livre de John Foster Bellamy qui s'appelle Marx écologiste, qui avait soulevé certains problèmes. Mais il est quand même, au niveau de son analyse économique, un mécaniste pur, c'est-à-dire je fais sortir des produits, je mets de la valeur travail là-dessus, et j'exploite, et voilà. Bon. Et l'incidence, pour lui, le processus économique fonctionne, on rentre des matières, on met de la matière du travail, à aucun moment il s'est dit on va manquer de matière.
Parce que la frontière du système est trop réduite, on néglige les entrées sorties qui ne sont pas négligeables, c'est qu'il faut élargir les frontières pour tout prendre en compte.
Voilà. Bon.
Marx est mort trop tôt, quoi.
Ben non, mais il avait pas.
Non, il avait les
éléments. Bon, il n'a pas rencontré syndicat.
Il avait pointé certains.
Oui, il a pointé certains trucs. Oui.
Tout, il a fait envoyer. Vous savez, l'histoire de Alice. C'est bon. Le problème du réchauffement de la planète, à votre avis, la planète.